Bonjour Martin, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir et de vous revoir parce que en fait on s'est déjà vu. Bon, il y a peu de chances que vous vous en souveniez, mais j'ai eu la chance de participer à une de vos retraites. Ça devait être en 2010, c'était à Paris, c'était organisé par Terre d'Éveil, l'association Terre d'Éveil. C'était au Forum 104 et c'était un week-end, hein, c'était sur 2 jours, je crois. Et j'avais beaucoup, beaucoup apprécié notamment l'approche sur l'accueil des émotions qui m'a. Bah, ça me sert encore aujourd'hui. Donc, merci d'être là.
Bon, ben, très bien, ça me fait plaisir.
Et commençons par le début. Vous commencez, vous pratiquez la méditation depuis plus de 30 ans. Vous l'enseignez depuis plus de 20 ans et vous avez fondé en 2005 un lieu de retraite situé en Dordogne, le Moulin de Chaves. Et vous êtes auteur de livres sur la méditation. Alors, notamment, il y a Ne te quitte pas sur la place, enfin sur le corps dans la méditation et Tout le monde peut méditer. Et enfin, vous avez fondé l'application Mind, l'application de méditation Mind. Donc voilà pour un petit peu le CV. Est-ce que j'ai tout bon pour l'instant?
Yes, ben c'est à peu près ça, oui.
Bon.
Ça fait 30 ans de pratique et puis, oui, 20, plus de 20 ans qu'on est en France et justement avec le moulin qui existe depuis 15 ou 16 ans maintenant pour accueillir des gens pour pratiquer pour des retraites intensives de méditation.
Alors, je vais vous poser ma première question. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment et pourquoi est-ce que vous vous êtes mis à méditer? Et surtout, quelles sont les traditions qui vous ont, et les enseignants aussi, qui vous ont accompagné et qui ont marqué votre chemin?
Oui, ben, pourquoi j'ai commencé? Ben, à cause de crise existentielle, je dirais, crise d'adolescence. Quand j'avais 16 ou 17 ans, je me trouvais vraiment émerveillé du fait que j'étais conscient. Enfin, moi, mais tout le monde. Donc, c'était vraiment une profonde interrogation pour moi. Mais qu'est-ce que c'est d'être vivant? Qu'est-ce que c'est d'être conscient? Ça me semblait une sorte de un vrai miracle et quelque chose de très mystérieux. À la fois, bon, c'est très évident. Ben oui, je suis là, je suis conscient. Mais à la fois aussi, ben, qu'est-ce que c'est? C'est pas vraiment un choix d'être conscient. On ne peut pas imaginer ni la nature de la conscience, ni la disparition de la conscience, et toutes sortes de... C'était pas un questionnement intellectuel, c'était vraiment une sorte de profonde auto-interrogation. Et donc je me trouvais tellement fasciné par ça qu'à côté de tout cela, le reste me semblait trop terne, sans intérêt. Donc l'idée de poursuivre mes études, de suivre une carrière, tout le reste me semblait vraiment ben, rien à côté de ça. Mais je ne savais pas du tout où aller ni quoi faire pour avoir des réponses à ce questionnement. Donc dans mon éducation, ce genre de choses n'était pas traité ni à la maison ni au lycée, etc. Et donc j'ai commencé à voyager en fait juste pour tout chambouler, pour trouver autre chose, pour sortir de tout ce que j'avais connu. Et donc je me trouvais en Inde à 19 ans et avec l'idée que l'Inde était le pays mystérieux où je trouverais toutes les réponses. Et puis pour une fois c'était vrai. Et grâce à la découverte des enseignements et des pratiques de méditation, j'ai trouvé, waouh, il y a quand même tout, il y a toutes ces traditions contemplatives qui ont suivi ce même chemin. Ça s'adresse exactement aux gens ben, comme moi qui se contentent pas de leur vie, si tu veux, mais pour X ou Y raison se trouve qu'il faut aller plus loin, il faut creuser, il faut se questionner et tout le reste. Et donc, ça, c'était déjà un grand truc pour moi de découvrir qu'il y avait, depuis des milliers d'années, d'autres gens comme moi. Parce que je me trouvais très, très seul dans cette démarche jusqu'à ce moment-là. Et puis encore plus, il y avait quand même des instructions. Comment entraîner l'attention, comment explorer la conscience, comment se poser ces questions sans juste tourner au rang intellectuellement. Donc, c'était très clair, même si j'étais relativement jeune, à 19 ans, dès le premier cours de méditation que j'ai suivi en Inde, après 20 minutes peut-être des premiers enseignements que j'entendais, c'était waouh, c'était ok, je vais consacrer ma vie à ça. Et ben voilà, depuis, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai côtoyé plusieurs enseignants, plusieurs traditions en Inde et en Thaïlande. Mais surtout, mon éducation là-dedans, si tu veux, a été dans les traditions bouddhistes, y compris, bien sûr, d'autres éléments hindouistes et tout, mais c'était surtout en fait, dans les traditions yogiques, contemplatives, méditatives, les détails des différentes lignées ou différentes traditions perdent un peu leur importance. Là, quand on est dans les croyances et les rituels, ces différences sont importantes, mais comme on est dans une démarche de pratique directe, d'exploration consciente, les différences des traditions n'ont moins d'importance, je dirais. Et donc, même si c'était surtout dans le bouddhisme qui s'appelle Theravada, chez moi, mes enseignants en Inde et en Thaïlande venaient de cette tradition. Mais en même temps, j'ai passé 2 ans, 2 ans et demi avec un ermite hindou dans l'Himalaya. Et donc, je voyais aucune contradiction entre ces différentes façons de pratiquer.
D'accord. Donc, en fait, vous avez une approche plutôt transversale de la pratique. Vous n'êtes pas enfermé dans un moule, parce que c'est vrai qu'on peut trouver des enseignants qui font partie du club Theravada ou du club Mahamudra ou du voilà. Et vous avez plutôt une approche transversale.
Ben, moi j'aime bien me rappeler que Bouddh veut dire éveil. Hein. Bouddha, c'était juste un titre qu'on appliquait à ce bonhomme, Bouddha éveillé. Donc, bouddhisme, qu'est-ce que ça veut dire bouddhisme? Éveillisme. Hein. Donc, moi, ça m'intéresse pas trop d'être bouddhiste, mais éveilliste, oui. Je suis éveilliste. Et après, donc, ce qui est utile pour entraîner l'attention, pour se libérer des schémas, pour reconnaître nos façons de se troubler et de pouvoir s'en sortir, ça, c'est du bouddhisme. Que ça vient de telle ou telle ou telle tradition, et moi, pour moi, n'a pas été importante. En même temps, je crois que ça dépend de différentes personnes. Pour certains, c'est bien quand même de trouver un enseignant ou une tradition et de juste suivre là assez, pas rigidement, mais assez clairement et singulièrement peut-être pendant un certain temps. Et certaines personnes trouvent que s'ils commencent à aller là, à là, et écouter cette personne et cette personne, il y a des vraisemblables contradictions. Et après, on se confonde et on s'assoit pour méditer et on se demande est-ce que je dois faire cette technique que j'ai appris là ou cette autre chose que j'ai appris là. Donc, dans ce cas-là, si on se confonde ainsi, ben, vaut mieux faire une chose bien et pendant un moment. Mais pour d'autres personnes, l'opposé est vrai. Si on fait seulement si on suit une voie de manière étroite, ça devient justement rigide. Et dans ce cas-là, pour ces personnes-là, ben c'est très bien d'alimenter sa pratique, d'alimenter sa compréhension par des différents ruisseaux. Donc, tout ce qui semble libérateur, c'est du bouddhisme.
Ouais, c'est très pragmatique en fait. Ça me fait penser au courant qu'on retrouve notamment aux États-Unis, du pragmatique dharma, donc le dharma pragmatique, où en fait ce qui est utilisé, c'est ce qui marche. Et c'est surtout la pratique et l'expérience directe qui fait foi. Alors, vous avez abordé le mot éveil, l'éveillisme. Et je vais vous poser la question, un peu grosse question, mais alors qu'est-ce que c'est que l'éveil?
Qu'est-ce que c'est que l'éveil? Ben, sans rentrer dans des détails métaphysiques, etc., je dirais, c'est les deux aspects clés d'une vraie pratique transformatrice sont l'éveil et la liberté. Je dirais liberté plutôt que liberté, parce que liberté pour moi c'est plutôt un statut légal. Liberté c'est le goût d'une qualité libre qui coule dans la vie. Donc ces deux choses sont. On ne peut pas séparer ces deux choses l'un de l'autre. L'éveil représente le côté où il y a une certaine compréhension, une compréhension suffisante de ce qui se passe. Ce n'est pas une compréhension réductrice, c'est. Mais une éveil, c'est il y a le reconnaissance chez soi d'une certaine clarté par rapport où je suis, ce que je suis, qu'est-ce qui se passe. Et cette clarté, c'est pas raisonner, c'est une clarté qui illumine l'expérience. Les fruits d'une pratique, justement, où on explore, où on découvre, où on entraîne l'attention, où on reconnaît la nature fondamentalement lumineuse, brillante de l'esprit. Donc, ce côté éveil, ça correspondait à cette qualité d'une certaine clarté qui permet, une clarté qui permet de naviguer la vie, justement, librement. Et ça, c'est cette autre qualité de libre, et qu'il y a un feeling d'être libre. Le goût de la liberté, quelle que soit l'expérience, quelle que soit la situation, qu'on est dans une situation convenable et agréable, ou qu'on est en danger ou difficulté ou maladie, ou quoi que ça soit. Et il y a une certaine confiance quand ces deux qualités sont vraiment intégrées chez quelqu'un, qu'on sait qu'il n'y a aucun problème. On reconnaît qu'il n'y a aucun problème. Tout peut partir en couille, on peut dire, mais quand même, à la base, on est incapable d'en faire des problèmes. Si on est malade, c'est désagréable. Si on se blesse, ça fait mal. Mais grâce à cette clarté, grâce à cette liberté, on reconnaît on a arrêté de fabriquer du drame autour de ces expériences. Donc, on peut résumer de différentes façons, mais là, ça me semble quelque chose de fondamental dans ce qu'on veut dire quand on parle d'éveil.
Mais du coup, comment on fait? Comment on fait pour atteindre l'éveil? Est-ce qu'il y a un chemin ou est-ce que c'est quelque chose à découvrir? Est-ce que c'est quelque chose de très loin au bout d'un chemin avec des années et des années de méditation? C'est quelque chose qu'on peut découvrir ici et maintenant?
Oui. Oui, bien sûr. Oui à tout ça. Et c'est là, justement, qu'on trouve les différences d'approche ou les différences de rhétorique entre les différentes traditions. Mais la seule réponse sage, c'est oui. Est-ce que c'est un chemin qui nécessite beaucoup de pratique et d'apprentissage et d'approfondissement? Oui. Est-ce que c'est la nature de chaque instant, déjà, là, maintenant, tout tel que c'est? Oui. Est-ce que ça prend beaucoup d'exploration pour comprendre ça? Oui. est-ce que c'est quand même disponible et compréhensible là, 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 tout de suite, maintenant? Oui. Et c'est la réconciliation de ces vraisemblables paradoxes qui constitue une vraie pratique. Quand on parle d'une pratique ou d'une compréhension instantanée, ou qu'on parle d'un long chemin de toute une vie ou de plein, beaucoup de vies.
J'ai pu remarquer que vous aviez une approche qui est, alors notamment dans votre ouvrage Ne te quitte pas, qui est axée sur le corps, l'incarnation, le travail avec les sensations corporelles, les sensations physiques. Et j'ai pu constater que c'est un peu une tendance générale qu'on retrouve dans différentes traditions. Peut-être que c'est un contrebalancement avec peut-être une tendance contraire d'aller dans la transcendance et peut-être même dans l'évitement ou dans le contournement spirituel. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette approche sur le corps?
Quand on parle de méditation ou mindfulness, par exemple, maintenant, on a tendance d'imaginer un processus assez mental. Et on est déjà, la plupart d'entre nous, on est déjà un peu surstimulé mentalement, surchauffé mentalement. Et donc, on amène ces mêmes tendances à la méditation et on imagine que, justement, on travaille avec l'esprit, avec le mental, tout le reste. Oui, 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 mais c'est où, ce mental? On ne peut pas le trouver quelque part. En fait, toute notre expérience se passe là, 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 là. Tout ce qui est vu là. Tout ce qui est entendu là. Tout ce qui est ressenti là. Et c'est ce qu'on appelle le mental, l'esprit, n'est que accessible là. Et cette lateté, cette immédiateté, et c'est beaucoup plus fiable à atterrir dans cette immédiateté corporellement, viscéralement, physiquement. Et si on essaye de comprendre le mental ou d'entraîner le mental ou de s'interroger sur le mental sans être ancré physiquement là, dans ce corps ainsi, ça va devenir juste une pensée abstraite. Ça va devenir de la philosophie désincarnée. Donc, c'est pas pour séparer corps et esprit, c'est pas pour dire non, 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 pas l'esprit, il faut qu'on soit dans le corps, comme si c'est autre chose ou ailleurs, mais it's just l'encouragement d'être là où on est, dans le ressenti de ce qui se passe, comme une vraie base fiable pour ensuite aussi voir que on n'est pas seulement là physiquement, on est aussi là émotionnellement et conceptuellement et tout le reste, mais qu'on ne peut que vraiment aborder et répondre à ces domaines d'expérience en étant là physiquement. Et donc, dans le livre « Ne te quitte pas », il y a une sorte d'exploration de tous les domaines d'expérience humaine, mais du point de vue de cet ancrage physique. Et c'était un peu pour explorer une phrase du Bouddha où il dit ben, « Tout l'univers entier se déroule là, dans ce corps. » Et donc là, c'est sa manière justement de montrer l'importance. Ce n'est pas une nouvelle approche, pas du tout, mais il me semblait que c'était nécessaire de mettre en avant cet ancrage corporel vu la tendance dans la néo-méditation, on peut dire la méditation contemporaine, d'être justement un peu désincarné ou surmentalisé.
Alors, pour rebondir un petit peu sur la présence physique et le caractère désincarné, je vais vous embêter un petit peu avec un paradoxe. Parce que, en fait, vous proposez beaucoup d'enseignements et des pratiques dématérialisées, et ça bien avant la crise sanitaire, et en ligne, et que ce soit via même l'application ou via Skype, etc. Comment est-ce que vous arrivez en fait à transmettre de façon efficace et avec enfin une vraie connexion qui se fasse, alors même que ben, on pourrait croire à première vue que le fait d'être ben, avec un écran en tant que entre l'instructeur entre l'enseignant et l'élève, on pourrait penser que ça fait un obstacle.
Mais justement, si on est mentalement, on se dit, ben, on n'est pas du tout au même endroit. Toi, tu es où, Ludovic, là maintenant?
Je suis en Normandie.
Tu es en Normandie, oh, tu es très loin. Moi, je suis dans le sud-ouest, tu vois. Mais, donc mentalement, on se dit, ben, il y a beaucoup de distance entre nous. Mais en fait, on est là. On est là. Je te vois, tu me vois, on s'entend. Et donc, si on fait référence à cette immédiateté, on ignore l'idée de distance et de combien de kilomètres est Normandie et tout le reste. On est là. On est là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire être là? Mais déjà, avant la communication et tout, est-ce que tu reconnais, est-ce que tu ressens que tu es là, que tu es présent? Est-ce que tu ressens tes cuisses sur le siège? Et rien que juste en te posant la question, je vois que c'est comme si oh, tout ralentit un peu. Pourquoi ça ralentit? Parce que on prend conscience un peu plus que on est là. Donc cette lâteté qui a sa base dans le ressenti direct, après peut inclure ben, tout l'univers. Nous, on est à des centaines de kilomètres de distance, mais on est aussi là. Et ça, c'est un des très beaux aspects, je trouve, des enseignements dématérialisés, comme tu dis. Souvent, je suis en ligne avec 300 personnes. Par exemple, ils sont vraiment partout dans le monde, de peut-être il y a 20 pays différents représentés. Chacun est chez soi, mais on est là ensemble. Et en mettant l'accent sur cette présence partagée, c'est un moyen en fait de voir à quel point on imagine et on fabrique plus de séparation que nécessaire. On pense en termes de kilomètres, on pense en termes de distance, de moi je suis dans tel endroit et toi tu es dans un autre endroit. Et c'est pas pour nier ça, mais en même temps on a accès à une autre manière de voir qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus directe, beaucoup plus ressentie. Et en fait, même si on est aux centaines de kilomètres, si on est là, dans cette immédiateté, il y a la possibilité pour une vraie intimité entre nous, un vrai échange, un vrai sens d'être là ensemble. Donc, comme ça, je vois aucune contradiction entre cette physicalité où je mets l'accent et le fait d'enseigner en ligne ainsi.
C'était une petite provocation et c'était mais j'aime beaucoup votre approche parce qu'en réalité pour les personnes qui vont écouter ça et sont soit très axés sur la non-dualité ou sur des traditions. On entend ça dans ce que vous dites, on entend le Mahamudra, le Dzogchen, l'Advaita Vedanta, mais avec des mots qui sont simples en fait. Et c'est tout aussi efficace et tout aussi. Ça pointe en fait les mêmes réalités. Et c'est beaucoup plus accessible quelque part. Est-ce que je peux vous demander de nous faire une petite méditation guidée ou quelques petites instructions de pratique pour justement retrouver ce là.
Yeah, pourquoi pas. Retrouver, oui, il faut retrouver parfois parce que justement c'est souvent perdu. Même si on ne peut que être là et on est toujours là, on a tellement tendance de fabriquer des abstractions que souvent on perd contact avec cette latteté. Donc on peut mettre l'accent là-dessus afin que. Si tout le monde qui écoute, si vous écoutez ça maintenant, que vous soyez chez vous, ou que vous soyez en voiture, ou que vous soyez en train de marcher, ou dans un train, ou je ne sais pas quoi, mais comme j'ai demandé à Ludovic il y a tout à l'heure, d'abord, voir où est votre attention. Et voir si vous pouvez inviter votre attention à se poser. Juste à se poser là où elle veut. Où est-ce que votre attention voudrait se poser? Parce que normalement, notre attention est en train de s'éparpiller en dessous de toutes sortes d'idées, et d'images et d'interprétations. Et en fait, c'est assez fatigant tout ça. Et l'attention voudrait se poser. Oh. Et voici, vous pouvez laisser votre attention se poser justement dans le ressenti. Le ressenti des jambes qui marchent. Le ressenti des cuisses sur la chaise, le ressenti physique qui prédomine chez vous, là maintenant, dans votre activité actuelle. Rien de particulier à chercher, rien à fabriquer. Si vous pouvez rentrer en contact avec le va-et-vient de la respiration. Et prenons juste la prochaine minute. Voyez comment est-ce à être là. Comment est-ce à être intime avec votre expérience directe. Peut-être c'est soulageant, oh, comme une rentrée à la maison. Ou peut-être c'est inconfortable. Peut-être vous êtes confronté par votre agitation par un mental qui a l'habitude de partir à droite et à gauche. Voyez comment est-ce maintenant être là. Tu es toujours là, Ludovic? Je ne sais pas. Ah, ok. L'écran s'est figé un petit peu.
Toujours là.
Ouais, c'est
Merci
marqué.
beaucoup hein, pour la pratique très qui permet
Yeah.
de revenir.
Donc, comme j'allais dire, ça, cet exercice juste d'être présent dans l'expérience immédiate et de voir comment est-ce être là. Ça, c'est toute une pratique là. Parce qu'en voyant comment est-ce, c'est là où on rentre en contact pas seulement avec notre expérience corporelle, mais avec nos habitudes, avec notre agitation. C'est là où on commence à comprendre nos schémas, de voir à quel point on essaye d'être partout et n'importe où, sauf là où on est. Et c'est là où on se donne l'opportunité de goûter une sorte en fait de vraie relaxation, parce que être présent n'est pas finalement un acte de volonté, c'est pas une question de forcer l'attention à rester présent, à être dans l'instant présent, comme on entend parfois. C'est plutôt le lâcher prise de tous les départs et toutes les abstractions et toutes les fabrications habituelles, afin de trouver qu'on peut être à l'aise. On peut être intime, qu'on peut connaître un goût de détente et de liberté, justement, qui parfume toutes nos expériences.
Il n'y a pas de mots en fait pour dès qu'on commence à décrire on commence à s'éloigner de cette expérience et en même temps je trouve que vous avez une pédagogie en fait une faculté à vraiment transmettre à voilà, bien di dirigé comme une vraie pédagogie, quoi. Je trouve ça très agréable et puis ça donne confiance. C'est vrai que quand on médite et quand on peut avoir aussi beaucoup de doutes et se dire oui, mais alors ça, est-ce que je le fais bien et tout ça. Et là, juste le fait de devoir juste revenir là, quelle que soit l'expérience, c'est très libérateur.
Good, ça c'est le but.
J'ai une question maintenant sur justement les obstacles. Vous avez enseigné et vous enseignez à de très 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 nombreuses personnes, et j'imagine que vous avez dû rencontrer des choses, des obstacles récurrents chez ces personnes-là. Et alors, quelles sont les difficultés ou les obstacles les plus courants que vous pouvez rencontrer chez les personnes que vous accompagnez, que vous guidez.
Donc, on peut trouver 10 000, les 10 000 obstacles, toutes les façons par lesquelles on se complique la vie, hein. Mais en gros, il y a trois directions essentiellement dans laquelle va l'attention, qui fait qu'on se perd dedans. Donc, la première, c'est justement les obsessions de ce que je veux, les obsessions de ce qui serait bien, ce qui serait agréable, et tous les fantasmes et toute la poursuite d'une idée de ce que je veux, ce que je voudrais avoir, de ce que je devrais avoir, de comment je devrais être. Hein? Donc ça peut être la poursuite des plaisirs sensoriels, si tu veux, mais ça peut également être la poursuite d'une idéale de moi. Donc l'idée que ce que je cherche est ailleurs et il faut que je la poursuive. Donc ça peut être très très grossière, hein, comme la poursuite matérielle d'argent ou de tout ce que tu veux, mais ça peut être très très subtil et même spirituel aussi, hein. L'idée de la poursuite de l'éveil, par exemple. L'idée que c'est comme la fameuse carotte devant l'âne, hein. Plus l'âne suit, plus les carottes gardent sa distance. Donc ça, c'est la... Et donc, ben, tout le monde, si vous écoutez ça, ben, vous pouvez voir à quel point la poursuite colore votre expérience. Et puis, ce qui est difficile là-dedans, c'est que parfois, on atteint ce qu'on veut. Et quand on a ce qu'on veut, oh, c'est soulageant. Comme si, quand on a faim, oh, j'ai faim, je veux manger, hein? Et puis on mange et, oh, et on n'a plus faim. Et donc, ça, c'est une sorte de petite libération. On a l'inconfort de vouloir quelque chose, puis on l'a, et puis on ne le veut plus, donc on est soulagé. Et parce qu'on a ce petit soulagement chaque fois, ça renforce le cycle. Mais en fait, le soulagement est très bref. Ce n'est pas la poursuite elle-même, ce n'est pas le désir lui-même qui est soulagé. C'est juste le fait, je voulais du chocolat et maintenant j'ai du chocolat. Oh, ok, tout est bon. Sauf que très vite, je trouve autre chose à vouloir. Donc le désir, c'est tout à fait naturel. Ce n'est pas pour contredire le désir, mais c'est juste de voir comment on rentre. Comment on fait pour suivre le désir? Quelles sont nos croyances, pour la plupart assez inconscients, dans la poursuite des désirs? Parce que la poursuite de ce que je veux, ou ce que je dois avoir, ou comment je dois être, c'est sans fin. Donc là, il y a beaucoup de place dans une pratique contemplative pour l'exploration de la poursuite. Voilà. Puis deuxième direction, c'est l'opposé. C'est toutes les manières dont on tourne autour de ce qui va pas, ce que j'aime pas, ce que je veux pas. Donc tendance à se perdre dans une sorte de vortex de négativité et de fabriquer de la résistance et de la négativité et de une sorte de plainte et de grogner, de râler, de auto-pitié, pauvre moi, c'est pas juste, pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi comme ça? Et donc, qu'est-ce qu'on fabrique du drame autour de ce que j'aime pas? Et donc, c'est pour ça que souvent, dans une vraie pratique spirituelle, on s'habitue à l'inconfort. Par exemple, le fait qu'on s'assoit en méditation, une demi-heure ou une heure ou quoi que ce soit, et on va connaître un certain inconfort physique, ainsi qu'un certain inconfort émotionnel, mental, etc. C'est pour ça que ça me fait rire quand on me dit, mais moi, je médite quand je le sens ou quand je veux. Ok, very good, c'est très bien de méditer quand tu veux. Mais c'est encore mieux de méditer quand tu veux pas. Parce que sinon, si tu médites que quand tu as le feeling, tu ne te donnes pas l'opportunité d'être plus habile avec ce que tu n'aimes pas. Hein? De rentrer en amitié avec l'ennui, avec l'agitation, avec l'inconfort. Et si on n'est pas ami avec ces choses, ben c'est eux qui prennent le dessus. Donc ça, c'est cette deuxième direction, la tendance de se crisper et de se contracter et de se figer et de se bagarrer avec ce que je veux, ce que j'aime pas, ce que je ne veux pas, plutôt que de voir comment on peut répondre plus gracieusement, plus habilement à ces choses. Et puis la troisième obstacle, si tu veux, c'est juste la tendance de se perdre dans du divertissement, de se perdre dans les téléphones, de se perdre tout court. Et on a développé tellement de manières de se perdre. On vit, ça, c'est l'ère de la distraction. Hein, bon, c'est pas pour imaginer que c'est la vie moderne qui est responsable pour ça. Bouddha parlait de cette tendance il y a 2500 ans. Hein, donc, c'est avant les téléphones mobiles qu'on cherche à se distraire. Mais plus on se perd ainsi dans toutes sortes de distractions vagues, plus on renforce l'habitude de perdre conscience. Parce que quand on parle de relaxation, toutes nos associations avec la relaxation, c'est les associations d'une perte de conscience. Comment on fait pour se détendre? On voit la télé. On regarde la télé, oh, c'est relax, yes, good. Mais aussi, c'est une manière de se rendre un peu inconscient. On se détend, hey, en buvant des coups. Ok, très bien, mais c'est une autre façon. On se détend avec la sieste ou en dormant. Qui sait vraiment demeurer de manière à l'aise et détendue? Relax, sans boire, sans dormir, sans regarder la télé. C'est comme disait Pascal, tu sais, le philosophe, il avait ce dicton, hein, tous les problèmes de l'humanité consistent du fait qu'on est incapable de rester tranquille, tout seul, dans une pièce. Donc, là, c'est l'obstacle le plus subtil, mais presque le plus pernicieux, parce que c'est beaucoup plus facile de voir les problèmes avec le désir et le désir et le désir et la poursuite éternelle de toutes ces choses, et aussi de reconnaître comment on est crispé quand on ne sait plus, quand on ne sait pas vraiment les gérer, les difficultés ou les inconforts, C'est très confrontant de pas se distraire. Et donc, une retraite de méditation, par exemple, c'est surtout ça, c'est un exercice de non-distraction. On vient, comme par exemple ici au Moulin, pendant une semaine, il n'y a rien d'intéressant ici. Hein? Enfin, le but, c'est juste d'être face à soi et de s'intéresser à l'expérience telle qu'elle se déploie, s'intéresser justement à cette respiration, à ces sensations, au schéma qui se dévoile. Donc, ces désirs et défense et distraction, on peut les appeler ces 3D ou 3C, c'est compulsion et contraction et confusion sont combattés, non, compensés par la méditation justement en s'entraînant dans une attention qui ne demande rien de la vie, qui ne défende ou on se défend pas contre ce qui se passe. Et où on a la capacité d'être non distrait, d'être là, d'être présent. Et donc, cette parallèle, je trouve c'est ce qui est très puissant dans la méditation pratiquée ainsi. C'est que c'est une compensation, une correction, si tu veux, de ces trois directions. Exactement. Tendance de vouloir et de se défendre et de partir. Et puis c'est exactement ça, la méditation. Comment être là sans insister sur quoi que ce soit, sans résister quoi que ce soit, et sans partir, on peut dire, ou plutôt de revenir et de revenir et de revenir à chaque fois qu'on trouve que, hop, on est parti de nouveau quand même.
Alors, du coup, ça m'amène à une autre question. Est-ce qu'il y a, parce que bon, maintenant la méditation aujourd'hui c'est devenu très à la mode, hein. La pleine conscience, on entend parler à toutes les sauces, et maintenant pour perdre du poids ou pour. Voilà. Et donc c'est très démocratisé. Et je voulais savoir si, quand même, il y avait des. Parce que beaucoup de gens s'y mettent, en fait. Est-ce qu'il y a des contre-indications à la pratique de la méditation? Puisqu'on travaille quand même avec son esprit, quelque part. Pas que.
I think il faut une certaine stabilité quand même mentale, parce que le processus de la méditation, c'est une sorte de déconstruction de tout ce qui est familier, de tout ce qu'on a, on s'est appuyé dessus, etc. Donc si déjà on est très anxieux ou très douteux ou très en conflit avec soi-même, parfois il vaut mieux une approche plutôt psychothérapeutique, où il y a un travail psychothérapeutique en parallèle avec une pratique méditative. Parce qu'on s'expose à toutes nos faiblesses en méditation. Et ça peut nous rendre humbles ou ça peut nous humilier. Plus on est attaché à une image de moi et comment je suis et comment je dois être, plus ça va m'humilier. Plus on peut quand même se prendre moins au sérieux et reconnaître, ben oui, c'est ainsi. Ah oui, c'est pas moi, c'est les tendances humaines à se perdre dans le désir et les poursuites, à se figer contre et se bagarrer contre ce j'aime pas, etc. Ces trois directions. Ah, comme ça, ça peut nous rendre humbles, juste reconnaître, ah, mais c'est comme ça. C'est comme ça pour moi, c'est comme ça pour les autres, c'était comme ça pour les Bouddhas, c'est comme ça pour tout le monde qui a jamais entrepris ce sort d'acheminement. Oh. Donc ça, c'est soulageant, mais il faut une certaine capacité de ne pas se prendre trop au sérieux. Et donc, les contre-indications, si tu veux, c'est justement si quelqu'un est assez fragile ou très, très fragile mentalement, la méditation pourrait être trop. Et en même temps, il y a certaines applications de pleine conscience, par exemple, qui visent surtout ces troubles mentaux, qui peuvent être aussi soulageants. Mais c'est souvent utile que ça soit une démarche qui est particulièrement focalisée sur l'anxiété, par exemple.
D'accord. Alors, imaginons que des personnes qui regardent cet entretien aient envie de faire une retraite au Moulin de Chaves ou de vous contacter pour avoir un accompagnement, je ne sais pas, peut-être individuel. Est-ce que aujourd'hui c'est possible? Est-ce que vous avez des retraites de prévues? Quelles sont les possibilités?
Il y a tout un programme de retraite au Moulin, donc moulindechaves.org. Tu mettras peut-être le lien.
Je mettrai les liens dans la description.
Oui, voilà. Et puis, avec l'appli aussi, ça c'est très très accessible. Donc, le Mind App, donc ça c'est des méditations, voilà, assez courte, assez accessible, mais quand même où il y a une certaine profondeur et on peut beaucoup pratiquer ainsi. Accompagnement personnel, c'est pas possible. Enfin, j'ai des élèves que j'accompagne personnellement, mais en général, c'est des gens que je connais bien pendant des années, que je connais leur pratique pendant longtemps avant de rentrer dans ce type de relation, parce que j'ai juste. Voilà, je peux pas proposer.
Il y a trop de monde sinon.
Yes. Yes. Donc, Mind, l'appli, le Moulin pour les retraites, Et après, sur mon site web à moi, martinhayward.com, il y a toutes sortes de ressources aussi, des méditations enregistrées, des discours, des enseignements. Je fais beaucoup de choses en anglais aussi, parce que je ne sais pas si vous avez entendu que j'ai un petit accent.
Non, ça s'entend pas du
Non,
tout.
pas
Ça
du
s'entend
tout,
pas.
hein.
Non.
Mais voilà, je suis anglophone de base, donc il y a pas mal de choses en anglais aussi.
D'accord. Ben je vous remercie d'avoir accepté de partager tout cela avec nous. Et ben je vous souhaite une bonne soirée. Et merci encore pour tout ça.
Yes, merci Ludovic, pareillement,
Très bonne
merci.
soirée.
À toi aussi.